Et pour donner des éléments de réponse, je vous invite à me suivre dans une randonnée. On va mener une enquête, mais on va aussi marcher ensemble. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans Luc, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Super. Je lis. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous ?» En marchant, pour avoir l'air si triste. L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»«
Quoi ?»
leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. » Comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils retrouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Nous sommes donc en route vers Emmaüs et nous avons rencontré deux disciples. Et ces deux disciples marchent, ils viennent de passer une semaine incroyable, des temps incroyables, mais ils sont tristes et nous ne savons pas grand-chose sur eux. On sait simplement que c'est des disciples de Jésus. Peut-être ont-ils passé avec lui les trois dernières années ? Peut-être qu'ils ont connu son entrée victorieuse à Jérusalem, Jésus qui était acclamé comme un roi. Ils ont vu tous les signes, tout ce qu'il a pu faire. Et ils avaient cette assurance que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'était le Messie attendu. Mais pourtant, voilà, il n'est plus. Il a été crucifié comme un vulgaire brigand. Celui en qui ils avaient mis tout leur espoir est mort. Quelle fin misérable. Quelle déception. À quoi bon rester à Jérusalem ? Nous avons passé du temps avec lui et maintenant c'est fini. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui disent que le tombeau est vide, mais quoi en penser ? De toute façon, c'est l'incompréhension totale. Et de toute façon, la vie doit reprendre son cours. Et ainsi, nos deux disciples partent, prennent la route et quittent. Ils s'en vont tristement pour Emmaüs. Mais là, le texte nous interpelle. Une rencontre particulière va leur permettre de cheminer Jésus les rejoint, mais eux ne le reconnaissent pas. Ils ne s'imaginent pas avec qui ils vont cheminer. Et il les interpelle en demandant ce qui se passe, pourquoi ils sont si tristes. Puis après, prouve en présentant des textes de Moïse, des textes prophétiques, pour dire que Jésus-Christ, que Jésus devait ressusciter, devait mourir et ressusciter. Et à la fin, quand ils arrivent à destination, à un moment, ils vont prendre le repas ensemble. Jésus partage le pain et là, c'est l'illumination. Oh, mais en fait, c'était Jésus, on l'avait pas reconnu. Waouh! Et Jésus disparaît. Et là, ils sont bouillants. Oh. Ils ne veulent même pas attendre et rester en direction d'Emmaüs. Ils prennent la route, demi-tour, on rentre à la maison. Il y a quelque chose d'énorme, quoi. Et ils vont retrouver les 11 disciples et leur annoncer Jésus est ressuscité. Eux-mêmes, les 11 disciples, ont vu Christ. Simon a vu Christ. Jésus est ressuscité. Nos deux disciples maintenant comprennent et croient que Christ est ressuscité. Et notre texte, donc, du coup, présente plusieurs éléments favorables à la résurrection de Christ et qui méritent un interrogatoire. Et c'est pour ça, comme ce centurion romain qu'on a vu dans cette bande-annonce, nous allons mener une enquête ensemble. Et nous allons voir un peu des détails et nous allons réfléchir. Est-ce que Jésus-Christ est réellement ressuscité? Et un premier élément, c'est ce fameux tombeau vide. Penchons-nous sur celui-ci. Alors, ça va le faire. Voilà. Le début d'une enquête. Un tombeau vide. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Il nous est dit, donc dans notre passage, entre les versets 22 et 24, il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et qu'ils ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont également allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. La question qu'on pourrait simplement se poser, c'est comment se fait-il que ce tombeau était vide? Normalement, un tombeau est vide quand on ne met pas de corps dedans, ou que, je sais pas, c'est assez étrange. Certains ont mis en avant que les crucifiés n'avaient pas le droit à une sépulture. De ce fait, comme c'était des brigands, on prenait leurs cadavres, on les balançait dans une fosse, et puis voilà. Donc tout simplement, Jésus n'aurait jamais été enterré dans un tombeau, et voilà, ça clôt un peu l'affaire. Mais cet argument, donc, n'est pas valable, parce que des fouilles de Geinberg, effectuées en 1968, ont mis à jour, justement, dans une sépulture, le corps, les restes d'un crucifié. Du coup, Christ a réellement et a pu être enterré dans un tombeau, mis dans un tombeau. Et d'autant plus si son cadavre avait été jeté à la fosse, eh bien, les responsables juifs se seraient empressés de trouver le cadavre pour montrer en tant que preuve, regardez, celui que vous prétendez être ressuscité, il est là. Ok, premier argument me semble pas très convaincant. Prochain argument qui nous dit, d'autres personnes ont prétendu que Jésus a été déplacé dans un autre tombeau, et c'est pour ça que le tombeau serait vide. On a mis son corps dedans, après on l'a déplacé, ou finalement on ne l'a même pas mis dans cette tombe. On a dit qu'il était enterré là alors qu'il était enterré à côté, quoi. Comment ça aurait été possible? Et il est intéressant de noter que les responsables juifs qui ont mis en place cette condamnation de crucifixion de Jésus-Christ étaient conscients que Jésus avait prêché qu'il ressusciterait. Dans 3 jours, il allait revenir. Et donc du coup, eux-mêmes ont pris leurs précautions, ils ont fait installer des gardes devant le tombeau pour vérifier, pour protéger, pour éviter qu'on puisse rentrer. Et je crois qu'ils ne seraient pas laissés berner si facilement. Ils ont pris leurs précautions pour savoir si Jésus-Christ était réellement dans le tombeau, pour vérifier si celui qui prétendait aller ressusciter était là et qu'ils n'allaient pas garder un tombeau vide. Il y a aussi plusieurs témoins qui ont vérifié, qui ont vu où Christ avait été enterré. Alors du coup, comment aurait-il pu se tromper si grossièrement de tombeau? Est-ce que des gardes auraient gardé un tombeau vide? Est-ce que les responsables les auraient emmenés garder un tombeau vide? Ça paraît pas cohérent. Une autre idée en vogue, et la suivante, c'est que Jésus ne serait pas mort. En fait, crucifié sur la croix, il se serait évanoui Et une fois qu'il a été mis dans le tombeau, il a eu l'occasion de sortir et de apparaître comme étant ressuscité. Et cette hypothèse bloque sur certains points. Simplement, quand on imagine le supplice de la crucifixion, eh bien, ça paraît déjà difficile de survivre. Mais en fait, il faut imaginer que la crucifixion est une pratique courante chez les Romains. Une pratique de mise à mort. Et donc, du coup, le crucifié était mis, après avoir été battu, après avoir été maltraité, on le plaçait sur une croix, cloué aux mains et aux pieds. On disait que les pieds étaient plutôt en zigzag comme ça, je vais essayer de vous montrer dans ce type-là, comme ça. Et en fait, l'effort était tellement important que au niveau des bras, ça bloquait tout au niveau de la respiration, et chaque respiration devenait de plus en plus difficile. Il fallait, pour pouvoir respirer, se hisser, peut-être essayer de pousser sur les pieds, sachant qu'on avait un clou planté au niveau des pieds, là, et puis dans les mains, quitte à voir les membres, les os, la chair qui se déchire pour essayer de prendre une respiration. En soi, c'était déjà une torture qui était difficile. Ok. On pourrait dire, bon, Jésus, il est passé dans les mailles du filet. Les Romains étaient des professionnels habitués de la crucifixion. Ça paraît déjà difficile, mais imaginons, il a pu passer entre les mailles du filet et rester évanoui sur sa croix. Ils n'ont pas vu que j'étais pas mort, c'est bon. Mais là, les textes nous disent que Jésus-Christ étant mort, ils vont aussi lui planter un coup de lance dans le côté. Et dans le film, j'aime bien parce qu'ils expliquent bien que c'était pas juste un petit coup de lance, pas comme ça, mais c'était vraiment un qui perfore le poumon, et etc. Et si Jésus n'avait pas été mort, ça aurait été encore un coup de grâce suffisant. Mais imaginons, on pousse un peu plus loin cette hypothèse, Jésus malgré tout n'est pas encore mort malgré la crucifixion, malgré le coup de lance, il est descendu de la croix, mis dans le tombeau. Là, les textes nous disent comme quoi il est loin, et on l'enroule dans des bandelettes, et il est comme ça dans le tombeau. Et là, il aura encore l'opportunité de sortir. Une interrogation que je me pose, c'est comment Jésus aurait pu retirer ces bandelettes qui l'entouraient, et comment dans ce tombeau, après avoir passé 36 heures au froid, il aura encore roulé la pierre, pour laquelle il fallait au moins une petite dizaine d'hommes pour rouler la pierre, passer les soldats qui étaient devant l'entrée, et sortir. Et après, cette hypothèse, vous voyez, elle ne me plaît pas tellement parce que ça ne me paraît pas clair que Jésus apparaisse devant les disciples. « Ouh, je suis ressuscité !» à moitié sanglant, après avoir souffert tout ce qu'il a pu souffrir. Et encore même pour nos disciples d'Emmaüs, imaginez sans soin une personne qui a subi ce type de souffrance, qui parcourt encore 20 km avec des disciples paisiblement, leur prêchant des textes. Pas cohérent. Je crois que Jésus sur la croix est mort. Cette hypothèse de coup ne semble pas tenir la route. Et il y a la théorie la plus ancienne qui dit que c'est les disciples qui ont volé le corps de Jésus. Bon. Et là, on peut se poser la question, comment ils auraient pu passer la garde romaine ? Souvenez-vous, devant le tombeau, il y avait des gardes, des soldats qui étaient là pour surveiller le tombeau. On avait dit, on ne veut pas que les disciples puissent voler le corps de Jésus. Les gardes ont veillé. Et la garde romaine était soumise à des prescriptions strictes, c'était vraiment très strict. On leur a posé une grande rigueur dans leur métier et ils avaient veillé au grain. Comment les disciples, de simples pêcheurs, des gens qui étaient démotivés, auraient pu passer des lignes expérimentées de soldats romains. D'après M. Morrison, il nous dit, dans tous les fragments de documentation que nous possédons au sujet de cette lointaine controverse, donc celle de la résurrection, il n'est fait d'aucune mention de personne autorisée, d'autorité, ayant affirmé que le corps de Jésus était toujours dans le tombeau. Seules les raisons pour lesquelles il n'y était point se trouvent rapportées. De la totalité de ces anciens documents se dégage la persistante impression qui était considérée comme notoire que les sépulcres étaient vides. y a déjà un point, ce tombeau vide. Mais continuons notre enquête. Nous venons d'éclaircir le point sur le tombeau, mais tournons-nous vers ses apparitions. Le texte nous dit, donc au verset 31, donc au verset 15 et 16, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Et plus tard, on a encore « Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Les disciples ont eu l'occasion à plusieurs reprises de voir Jésus ressuscité. Et il serait tout à fait logique qu'on puisse se poser une question, si ce n'était pas ni plus ni moins qu'une apparition, une illumination, une hallucination. Est-ce que les disciples n'ont pas simplement eu une hallucination ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'une personne isolée jusqu'à 500 personnes qui ont été témoins de cette expérience, qui ont fait cette expérience que Jésus est présent, ressuscité. Et on pourrait se poser, est-ce que c'est une manifestation de leur imagination ? Mais les psychiatres sont d'accord pour dire que les hallucinations répondent à plusieurs éléments et qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. On dit généralement, les personnes qui sont sujettes à des hallucinations sont principalement des personnes de nature sensible. Et on pourrait s'étonner à propos de ses disciples, des pêcheurs, autant de personnes, ou d'un homme comme Pierre, qui avait son caractère, on va dire. Et si ces hallucinations se passent dans un lieu précis, un endroit où Jésus aurait été, qui aurait pu leur faire dire « Ah, on revit une scène », eh bien là ça change, parce qu'il nous est rapporté que la présentation, la vision de Jésus a eu lieu aussi bien en extérieur qu'en plein air, que dans un lieu fermé, à plusieurs moments de la journée. Il nous est encore dit que normalement les apparitions sont plutôt de type personnel. Tu vois une apparition, mais là ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un groupe aussi important, jusqu'à 500 personnes ont été témoins de la vision de l'apparition de Jésus. Et on dit aussi que les personnes qui ont des hallucinations, c'est des personnes qui sont sujettes d'une attente, ils espèrent revoir quelqu'un, il y a quelque chose comme ça. Mais les disciples, il nous est dit qu'ils sont déçus, tristes. Ils n'ont plus d'espoir. Plus de 500 personnes ont été témoins. Je pense qu'on peut écarter cette hypothèse, cette thèse. On a encore une autre thèse qui va dire que la résurrection de Jésus n'est que spirituelle. Une sorte, je sais pas, d'esprit qui serait apparu, mais que physiquement, Jésus ne serait pas ressuscité. Ainsi, son corps serait resté dans la tombe ou quoi, mais Jésus ne serait ressuscité qu'uniquement spirituellement. Et à partir de là, on peut s'interroger sur les apparitions que les disciples ont eues. Ils ont pu voir Jésus, ils ont mangé avec lui. Jésus leur a même demandé de mettre les mains dans les plaies, dans les côtés. Comment ça aurait été possible si ça avait été un fantôme ou un esprit ? Ok, on a vu le tombeau, on a vu le principe des visions de Jésus-Christ. Et maintenant, regardons un autre point, les écrits de Moïse et des prophètes. Jésus présente et parle comme quoi les écrits parlent de lui. Il nous est dit au verset 26 et 27, « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures, dans toutes les écritures, ce qui le concernait. Notre texte dit que tout cela a été annoncé pour dire que Jésus-Christ est ressuscité. La réalisation des prophéties concernant Jésus annonçait sa mort et sa résurrection. Et au travers de cet exposé, Jésus partage à ses disciples qu'il est le Messie, celui attendu par le peuple juif. Et nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que Jésus aurait usé de supercherie ? Est-ce qu'avec des complices, ils auraient ensemble prévu le coup ? pour faire coller le maximum de prophéties le concernant, ainsi qu'on puisse le comparaître avec le Messie. Ça me semble bien compliqué. Sachant qu'il y a plus d'une centaine de prophéties concernant Jésus, le Messie, cette idée semble difficile à accepter. Elle commence par les origines, d'où il vient, son lieu de naissance, jusqu'à sa vie, son ministère, la trahison d'un proche, sa crucifixion, sa résurrection. Il y a trop d'éléments pour prendre en compte, pour les prendre en compte et ne pas en oublier. Vous connaissez peut-être ce jeu, c'est un peu ce jeu, c'est qui est-ce ? On pose la question, est-ce que je porte une barbe ? Non, tu ne portes pas de barbe, donc on va baisser les personnages. Est-ce que j'ai les cheveux blonds ? Non. Donc on retire, on fait baisser les personnages. L'objectif du jeu, c'est de trouver la personne. J'ai pensé à une personne dans ce jeu, et tu vas me poser des questions, et je vais te dire si ces points physiques correspondent au personnage. À la fin du jeu, il ne reste qu'une personne. Et c'est un peu ça avec Jésus. Les prophéties le concernant. Les prophéties sont tellement précises qu'elles ne pointent, qu'elles ne peuvent caler qu'à une personne. Et je pense sur ce point-là, des prophéties, on pourrait rester des heures et des heures à parler. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce point, parce que ça ne répond pas directement à cette question, si Jésus-Christ est-ce que Jésus-Christ est ressuscité. Mais ça nous interpelle sur la personne de Christ. Et ça nous invite à considérer les prophéties avec intérêt pour savoir si c'est bien de lui dont elles parlent. Mais dans tous les cas, on peut retenir que les prophéties annoncent la résurrection du Messie. Notre enquête continue. Nos disciples, en route vers Emmaüs, et l'ensemble des disciples ont vécu un bouleversement dans leur vie qui a amené des transformations, un changement radical. Et je vous amène à observer. Lisons les versets 32 et 35. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. En cours de chemin, au début de notre enquête, nos disciples étaient tristes. Ils étaient partis tristes de Jérusalem, déçus, mais ils reviennent transformés. Leur cœur brûlait lorsque Jésus leur expliquait les textes prophétiques. Ils ont cheminé avec lui sur le chemin d'Emmaüs et ils ont compris, ils ont réalisé. Le maître devait mourir, mais il devait ressusciter. Et il y a un changement incroyable qui s'est opéré auprès des disciples. Les disciples de tristes et désespérés devinrent joyeux, pleins d'espoir, de fuyants, et sont devenus courageux. La résurrection les a transformés. Ce qui est incroyable, c'est que ces personnes-là qui se cachaient, qui ont renié, qui ont fui Jésus-Christ, sont prêts à prendre des risques. Ils bravent la difficulté, la persécution pour partager cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. Et sur les 11 disciples, 10 sont morts comme des martyrs, crucifiés, lapidés, percés d'épées ou de flèches. Et un changement incroyable. Et on peut se dire, mais si les résurrections étaient fausses, pourquoi se sacrifier pour un mensonge, si tout cela avait été un mensonge ? Pourquoi ? Ils ont donné leur vie pour ce message, Jésus-Christ est ressuscité. Et l'ensemble de leur enseignement était cohérent. Et si on imagine que ça avait été un mensonge, il y en aurait un qui aurait craqué sous la pression. Ils ont persévéré. Ils ont été cohérents dans leur message. Christ est ressuscité. Notre enquête touche à sa fin. Et ce n'est que le début d'une enquête. Nous avons cheminé avec nos deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et nous nous sommes interrogés. Nous avons regardé le tombeau et il est resté vide. Nous avons observé les apparitions, elles paraissent plutôt sensées. Nous avons regardé les textes prophétiques qui semblent taillés sur mesure. Et nous avons observé la transformation des disciples qui est incroyable. Et tout laisse à croire que Jésus est bel et bien ressuscité. Mais si c'est le cas, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça impliquerait? De cette manière, en étant mort et ressuscité, Jésus manifesterait sa divinité. Il montrerait qu'il est Dieu. Et en ressuscitant bien plus, il montre que son sacrifice a été accepté par Christ. Lui qui était sans péché meurt pour le péché de l'humanité. Il démontre qu'il est sans péché, car la mort ne peut pas le retenir. Et c'est pour subir notre condamnation que Christ est mort. C'est pour nos fautes. Et en lui, nous avons l'espérance de la vie éternelle. La résurrection est donc fondamentale. Se dire chrétien et ne pas croire à la résurrection me paraît vraiment problématique. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne pourrions pas être pardonnés de nos fautes. Quelles sont nos conclusions d'enquête? Qu'est-ce que cela implique pour nous? Qu'est-ce que cela implique dans nos vies? Et j'aimerais bien vous encourager à approfondir cette question, à mener votre propre enquête, à vous renseigner. Et je me réjouis aussi que vous puissiez partager vos éléments, vos hypothèses, de dire « mais je ne suis pas d'accord sur ce point-là » et que vous puissiez, qu'on puisse ensemble en discuter. Et pour vous aider dans ces réflexions, je vous propose trois livres. Je vous propose trois livres qui sont vraiment intéressants. Les deux premiers sont en fait l'enquête que deux sceptiques ont menée sur leur Jésus-Christ, sur sa divinité, sur sa résurrection. Et le dernier est plutôt sous une forme d'un roman. Il imagine l'enquête sur le corps de Jésus, au temps de Jésus, avec la technologie récente. Donc le premier, bien plus qu'un charpentier, de Josh et Sam McDowell. Le deuxième, Jésus, la parole est à la défense, de Lee Strobel. Et le dernier, l'énigme du corps disparu. La route vers le chemin d'Emmaüs nous a fait cheminer dans la réflexion à propos de la résurrection de Christ. Nous avons vu que les hypothèses contemporaines ne sont pas convaincantes. Mais j'aimerais pas que ça s'arrête là, que nous puissions réfléchir. Comment réagissons-nous à tout cela? Dans notre bande-annonce du début, Clavius, le puissant tribun romain qui mène l'enquête, répond en répondant à la question « qu'est-ce qui t'effraie ?» dit « de me tromper, de miser l'éternité là-dessus. » La foi en la résurrection de Jésus a un impact éternel. Si Jésus est réellement ressuscité, nous avons l'assurance que nos péchés sont entièrement pardonnés et que nous serons avec lui pour l'éternité. Alors ferons-nous demi-tour tout de suite sur ce chemin d'Emmaüs pour rentrer à Jérusalem, proclamer, faire ce choix, ou bien poursuivrons-nous notre route comme si de rien n'était? Je vous invite vraiment à se poser ces questions. Merci de votre attention.